todos os indivíduos privados da sua liberdade devem ser tratados com humanidade e com respeito da dignidade inerente à pessoa humana.
Jednostka ma prawo do życia, wolności i do pewności swojej osobowości.
ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാവർക്കും തന്നെ സുരക്ഷിതത്തോടും സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടും ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ടെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം.
L'enfant handicapé a le droit de bénéficier de soins spéciaux ainsi que d'une éducation et d'une formation appropriée pour lui permettre de mener une vie pleine et décente dans la dignité.
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
Everyone is equal in the eyes of the law and has the right to equal protection by the law.
Die Familie ist das natürliche Element und das Fundament jeder Gesellschaft und hat das Recht auf Unterstützung vom Staat und von der Gesellschaft.
Rodina je prirodzeným prvkom a fundamentom spoločnosti a má právo na ochranu štátom.
Alle Menschen wurden frei und gleich in Wahrheit und Rechte geboren. Sie zijn begiftigd met verstand en geweten en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.
Bonjour, vous êtes bien sur Radio FM+.
Bonjour pour, Jean-Marie.
Bonjour Adeline, pour l'émission mensuelle donc d'Amnesty International. Adeline, je te laisse la parole tout de suite pour un thème important.
Oui, aujourd'hui on va consacrer notre émission au thème, voilà, je veux une France terre d'accueil et de liberté. Amnesty s'y engage très fortement et fait un appel pour une politique respectueuse des droits humains. Alors cet appel, il est bien sûr dédié à tous les citoyens et particulièrement à tous les candidats, que ce soit les candidats à la présidentielle ou les candidats aux législatives. Et donc nous constatons que Amnesty voudrait que tout le monde s'engage pour mettre le respect des droits humains au cœur des actions, que ce soit les actions citoyennes, que ce soit les actions parlementaires. Et donc pour ce fait, Amnesty a édité un petit guide que je vous invite à retrouver sur notre site amnesty.fr qui s'appelle « Info ou Intox ». C'est un petit livret de 8 pages qui invite à réfléchir et surtout à démonter un petit peu ce qu'on appelle les idées reçues.
Voilà, donc il parle d'affirmations
qu'on entend un peu partout, que parfois on a un petit peu de mal à comprendre est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Donc c'est sur deux thématiques qui nous tiennent à cœur, c'est à la fois sur l'état d'urgence, sur la sécurité, on va dire, et sur la question des migrations.
Des migrations, des réfugiés hein, notamment.
Voilà. Alors voilà, on entend par exemple ce genre de questions sur la sécurité. L'état d'urgence est indispensable, c'est le meilleur moyen de nous protéger.
Alors qu'est-ce qu'il faut en penser?
Alors, pas du tout. L'état d'urgence n'est pas efficace sur la durée.
Ah bon?
Eh bien non, absolument. Parce que depuis le 13 novembre 2015, l'état d'urgence a déjà été prolongé 5 fois.
Ah oui, 5 fois, c'est quand même énorme.
5 fois. Mmh. Alors, bien sûr, l'État, on ne va pas dire que l'État ne doit pas protéger la population. On veut tous être protégés et c'est tout à fait normal. Mais il faut savoir que même les responsables de la lutte contre le terrorisme, c'est-à-dire quand même les personnes professionnelles les mieux placées, ont eux-mêmes convenu que l'état d'urgence n'était nécessaire que durant quelques semaines après les premiers attentats. Donc on est quand même très très loin, ça fait quand même maintenant presque 2 ans oui. que l'état d'urgence est prolongé. Alors il y a eu 7253 mesures qui ont été prises, qui finalement n'ont abouti qu'à 20 enquêtes pour infractions à caractère terroriste, soit 0,3% des mesures.
Ouais, c'est quand même très mince. Hein.
Voilà, donc sur l'efficacité, on peut quand même avoir des doutes.
S'interroger. Alors, deuxième affirmation qu'on entend, l'état d'urgence ne change rien pour les personnes qui n'ont rien à se reprocher.
Ah, ça c'est un grand classique. On dit toujours, moi j'ai rien à me reprocher, donc finalement c'est pas gênant.
Je ne serais pas touché, donc sous-entendu par des mesures qui pourraient m'atteindre.
Voilà.
Or,
en fait, c'est pas vrai, parce que l'état d'urgence, ça bouleverse la vie des gens, mais même des gens qui n'ont rien à se reprocher. Parce que on disait tout à l'heure que les résultats d'enquête avaient abouti pour 20 personnes. Or, il faut savoir qu'il y a eu 4348 perquisitions de nuit.
Ah oui, quand même.
C'est-à-dire 4348 familles, par exemple, qui ont vu la police débouler chez elles sans être prévenues. Il y a eu 629 assignations à résidence. Ça veut dire que ce sont des gens qui doivent aller pointer au commissariat une fois, deux fois, parfois trois fois par jour.
Mais qui souvent perdent leur travail.
Qui souvent perdent leur travail, absolument. Donc en fait, d'abord, les conséquences sont très nombreuses pour les personnes qui sont visées. Hein. Il y a des traumatismes, on constate, y compris chez les enfants de ces familles, qui n'y sont absolument pour rien. Et en fait, Ces mesures, elles sont disproportionnées. Elles sont très souvent arbitraires, elles sont parfois discriminatoires. Et certaines personnes, on le sait maintenant avec le recul justement de ces deux années, sont visées uniquement en raison de leurs pratiques religieuses.
Oui.
Et puis il faut savoir que ces mesures d'état d'urgence, elles touchent aussi des mesures aussi basiques que par exemple le droit à manifester. Hein. Ça a été le cas pour la COP21, ça a été le cas pour la mobilisation contre la loi de travail. Donc ça, c'est quand même une atteinte aux droits fondamentaux qu'on a en France.
Bon, et en plus, je ne sais pas si tu l'as dit, mais les milliers de personnes visées, donc les 4348, n'avaient dans la quasi-totalité des cas aucun lien démontré avec des intentions ou actions terroristes.
Hein. Donc en ça plus, ça a été complètement inutile. Complètement inutile.
Voilà, troisième affirmation, la sécurité n'a pas de prix.
Oui, ça voudrait dire qu'on peut, de toute façon, il faut absolument faire quelque chose, voilà. Quel que soit le coût, quels que soient les inconvénients. Mais en fait, ce qu'il faut quand même se rendre compte, c'est que cet état d'urgence, ça menace les droits. Hein? Alors, bien sûr, on veut être protégé, mais pour être bien protégé, il faut aussi que nos droits soient respectés. Je rappelle que dans le cadre de l'état d'urgence, ce que dit la loi, c'est toute personne dont le comportement est susceptible de représenter une menace pour l'ordre public peut être concernée.
C'est assez vague hein, comme
c'est
formulation.
Assez vague.
Hein.
Donc ça veut dire le comportement.
Oui.
Ce genre de phrase pourrait très bien être inscrite dans des pays au régime totalitaire
ouais,
ou au régime
où,
par exemple, ouais. Ce matin, on a entendu quelque chose sur la Turquie. Voilà, parce que le comportement, ça veut dire quoi ?
Ben oui.
C'est très subjectif. Donc, c'est plus seulement les actes, mais les comportements qui sont suspects. Donc, en fait, l'état d'urgence, ça met les gens dans un état d'insécurité face à un état de plus en plus fort. Et surtout, il n'y a pas de garde-fou, il n'y a pas de contre-pouvoir. Et donc, n'importe qui serait au pouvoir peut s'en emparer. Donc l'état d'urgence, il doit protéger effectivement les personnes, mais à condition qu'il soit de nature exceptionnelle, puisque c'est justement un état exceptionnel, et de courte durée. Sinon, cet état d'urgence, en fait, il menace notre sécurité. Et à ce propos, nous avons dans la chronique d'Amnesty un petit témoignage d'un journaliste qui est assez intéressant, qui s'appelle Outrage au désespoir.
Oui, pour parodier le site de Corneille. Voilà, ben je vais lire ce témoignage. Ben Hardcore, c'est un photographe toulousain de 32 ans qui se coltine au réel. Hein. Grand gaillard, au regard noir surligné d'épais sourcils. Et il a été arrêté le 5 août 2016 sur la frontière franco-italienne à Menton, alors qu'il photographiait des migrants qui tentaient d'entrer en France en escaladant les rochers le long de la mer.
Oui, alors, donc là, il ne faisait rien d'interdit. Il faisait son travail de photographe.
Lui, en tout cas, lui, oui.
Lui faisait son travail de photographe.
Alors, il est d'abord accusé d'incitation à l'immigration illégale.
Ah bon.
Oui, en les photographiant. Hein. Devant l'absurdité matérielle de cette accusation, il n'est finalement poursuivi que pour outrage. 4 policiers portant plainte contre lui. Et lorsqu'il est jugé au tribunal de Nice, le 8 février dernier, Maître Myriam Ouam, son avocate, demande sa relaxe. Aucune loi n'interdit de prendre des photos, même si Ben, comme beaucoup de jeunes photographes et journalistes, ne dispose pas d'une carte presse délivrée sous condition d'un minimum de ressources, actuellement la moitié du SMIC. Maître Ouam explique en outre au tribunal que les policiers n'avaient pas le droit de confisquer son matériel et d'effacer sa carte mémoire, ce qu'ils ont fait. Elle présente à l'audience une vidéo, prise le jour de l'arrestation de Ben, qui montre des policiers, dont l'un des 4 qui a porté plainte, donner des coups de matraque dans le ventre des migrants, puis d'en menacer une personne en train de filmer. Le procureur requiert cependant une amende de 800 euros, arguant que Ben Hardcore a déjà été condamné à 2 reprises pour outrage en 2008 et 2009. Le verdict a été rendu le 3 mars, 750 euros d'amende. L'affaire est grave, car il s'agit de faire taire les journalistes et photographes indépendants qui ne peuvent s'appuyer sur une rédaction pour leur défense.
Absolument, c'est absolument incroyable. Alors voilà effectivement ce genre de dérive auquel on peut assister et qui est très embêtante. Donc vraiment, cette question de l'état d'urgence, il faut s'y pencher, il faut y réfléchir, tout en disant effectivement que bien sûr, l'État doit nous protéger, mais que la meilleure défense, ça passe d'abord par le respect des droits de l'homme et des respects des droits de la Constitution.
Thank you.
Reprise de notre émission sur Radio FM+, Amnesty International, deuxième volet de notre réflexion sur info ou intox, état d'urgence, sécurité, liberté, réfugiés, terrorisme. Eh bien, le cas des réfugiés, Adeline.
Absolument, parce que ça fait partie également, en même temps que la question d'état d'urgence, sur des préjugés que nous pouvons avoir ou des informations fausses que nous entendons.
Par exemple, celle-ci, les réfugiés devraient rester près de chez eux, sous-entendu ne pas venir chez nous.
Voilà, mais en plus, il se trouve, la réalité démontre que les réfugiés, en fait, l'immense majorité restent près de chez eux. Parce que la majorité des réfugiés ne sont absolument pas en Europe. Alors on va rappeler encore et toujours que 86% des réfugiés ont trouvé un refuge dans les pays dits en développement, hein, appelés autrefois pays sous-développés, c'est-à-dire les pays les plus proches de chez eux.
Et pas les plus riches. Hein.
Et pas les plus riches. Les 10 pays qui accueillent le plus de réfugiés au monde, on rappelle, c'est le Liban, l'Iran, le Pakistan, la Jordanie, le Kenya, l'Éthiopie, la République démocratique du Congo, l'Ouganda et la Turquie.
Donc c'est pas le groupe des 5 ou des 6 pays les plus
riches. Donc c'est pas le groupe des
5
et des 6, absolument. Donc rappelons que l'immense majorité des gens vont tout près de chez eux et que ce sont ces pays qui sont eux-mêmes en grande difficulté qui accueillent la plus grande partie des réfugiés.
Deuxième idée reçue qu'on entend, très répandue celle-là aussi, accueillir des réfugiés nous expose à la menace terroriste, parce qu'un lien est fait effectivement entre les deux. Qu'est-ce qu'il faut en penser, Adeline ?
Alors, les personnes réfugiées, en fait d'abord, ce ne sont pas, il se trouve, pour l'instant, tous les attentats qu'il y a eu, excuse-moi Jean-Marie, ne sont pas des gens qui étaient des réfugiés. Et il faut quand même comprendre que les personnes réfugiées, elles cherchent à reconstruire leur vie en sécurité. C'est justement ces personnes qui, elles essayent d'échapper à la menace.
Absolument, oui.
À la menace. Mmh. Elles fuient les menaces, les persécutions, elles fuient la guerre. Donc, leur refuser l'entrée et l'asile, c'est les condamner, les obliger à rester sous le joug de cette terreur et de cette tyrannie.
Notamment en Syrie, par exemple.
Notamment en Syrie. Ils fuient exactement les mêmes choses que nous redoutons. Ce ne sont pas eux les terroristes.
Troisième affirmation, alors celle-là aussi, on l'a beaucoup entendue et on l'entend toujours, la France n'a pas les moyens d'accueillir les réfugiés, souvenir d'une phrase tronquée d'ailleurs prononcée par Jean-Pierre Chevènement, hein, qui disait « mais elle peut y prendre sa part ». Donc la France n'a pas les moyens d'accueillir ces réfugiés, vrai ou faux ?
Alors la France a tout à fait les moyens d'accueillir les réfugiés. Alors c'est vrai que accueillir une personne, ça a un coût, hein, on va pas le nier, mais d'abord, la France, c'est quand même la sixième puissance mondiale. Elle a tout à fait les moyens d'assumer son obligation, parce qu'on rappelle quand même que c'est une obligation.
Une obligation,
que la France a signé la convention de Genève sur l'asile. Donc la France a tout à fait les moyens d'accueillir les réfugiés. Alors évidemment, cet accueil, plus il est prévu à l'avance et plus il est anticipé, mieux il se passe. C'est une question de volonté politique. On rappelle que la France, c'est quand même plus de 60 millions d'habitants et il y a 273 000 réfugiés. C'est-à-dire que c'est 0,41%. C'est même pas 1%.
Par contre, le Liban ?
Ah, par contre, le Liban, c'est 25%.
Hein. Ah oui.
Voilà, la Suède, c'est 8%. Donc, on est extrêmement loin du nombre d'accueillis qu'on pourrait avoir. Et il faut rappeler que ces réfugiés, s'ils sont autorisés à rester en France, s'ils sont demandeurs d'asile, une fois qu'ils y sont, ils rapportent de l'argent
à la France.
Parce qu'ils travaillent, ils payent des impôts, ils payent la sécurité sociale.
Et donc la conclusion de ça ?
La conclusion, voilà, c'est qu'effectivement, oui, nous pouvons accueillir plus de réfugiés. Les solutions pour finir avec la crise de l'accueil des réfugiés existent. Hein. Ce n'est pas la crise des réfugiés, c'est la crise de l'accueil. Alors oui. Il faut effectivement ouvrir des voies légales et sûres pour que les personnes réfugiées se mettent à l'abri sans risquer leur vie. Ça, c'est quand même fondamental. C'est quand même la base des droits de l'homme. Et en même temps, il faut aider, effectivement, les premiers pays d'accueil, ce dont on parlait tout à l'heure, hein, les premiers pays d'accueil des réfugiés, à leur assurer dignité et sécurité dans la durée et à leur permettre de déposer leur demande d'asile de façon sûre.
Oui, alors dans la chronique Le Mensuel d'Amnesty dont tu parlais tout à l'heure, il y a une interview de Salil Chetty. Alors Salil Chetty, pour ceux et celles qui ne le sauraient pas, c'est le secrétaire général d'Amnesty qui dénonce l'ambiance de peur et de haine et qui dit les droits humains passent par la justice.
Absolument. Ce qu'il nous dit, c'est que voilà, il veut dénoncer les fausses solutions. Et il a une phrase, je trouve, très intéressante, qu'il dit les solutions, la solution aux inquiétudes et aux peurs n'est pas de faire des migrants des boucs émissaires. Et d'ailleurs, c'est la question qu'Amnesty lui pose. Quelles devraient être les priorités de la politique française en matière d'accueil, justement, de ces réfugiés ?
Voici la réponse de Salil Chetty. Nous sommes confrontés à cette situation chaotique parce qu'il n'existe pas de système qui offre un accès légal et sûr aux réfugiés. La priorité, c'est la mise en place de ce système respectueux des droits des réfugiés qui tienne aussi compte du fait qu'il n'est pas possible pour la France de recevoir 10 millions de personnes. On a besoin de ce cadre. Par ailleurs, jusqu'à présent, l'Italie et la Grèce se retrouvent seules à gérer ce problème. Il faut qu'il y ait un partage plus équitable des responsabilités en Europe. Si vous prétendez constituer une Union européenne, alors agissez comme telle. Enfin, les gouvernements ont failli. Après le sommet des Nations Unies sur les réfugiés en septembre dernier, après la victoire du Brexit puis celle de Trump, notre campagne internationale « I Welcome » veut montrer que là où les gouvernements ont échoué, les gens ordinaires peuvent réussir. On peut s'inspirer de la solution canadienne qui valorise la prise en charge privée de l'accueil des réfugiés. Les Français, les Européens sont ouverts d'esprit et même si certains ne sont pas d'accord, les valeurs de solidarité et l'attachement aux droits humains restent très forts.
Voilà, il ajoute aussi, je trouve que c'est très intéressant, par rapport justement à ce qu'on disait, il faut être réaliste, on ne peut pas, tout le monde ne peut pas accueillir. Il dit, il n'y a pas de position réaliste avec la question des droits de l'homme. On ne peut pas faire de compromis avec les droits humains. Soit vous êtes pour, soit vous êtes contre les droits fondamentaux. Et justement, dans ce moment un peu difficile, un peu troublé, c'est le moment de rester ferme dans ses valeurs. Voilà. Alors, nous vous invitons à lire notre petit livre « Info ou Intox », à signer notre petite carte pétition qui s'appelle « Je veux une France terre d'accueil et de liberté ». Voilà, cette petite carte. Amnesty les collecte, on peut les envoyer au siège de Paris. Et Amnesty les remettra en main propre au prochain président de la République pour lui montrer que l'opinion des gens compte aussi, qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens, beaucoup plus que parfois ce qu'on a l'impression en France, qui sont effectivement favorables à une France terre d'accueil et de liberté. Voilà, concernant cette petite information, donc vous pouvez retrouver nos petits guides sur le site d'Amnesty. Jean-Marie, pour finir, est-ce que tu as quelques bonnes nouvelles à nous annoncer ?
Oui, écoute, pour terminer l'émission, effectivement, une bonne nouvelle, l'Afrique du Sud renonce à se retirer de la Cour pénale internationale.
Ah,
oui.
Très bien.
Le 8 mars dernier, le gouvernement sud-africain a annoncé sa décision de révoquer la notice adressée à l'ONU concernant son intention de se retirer du statut de Rome de la CPI, la Cour pénale internationale. Alors, cette annulation officielle donc, représente une nouvelle chance pour le gouvernement sud-africain de repenser sa décision de contrecarrer la poursuite de la justice. Tandis que la communauté internationale semble indifférente aux atrocités de masse commises en toute impunité à travers le monde, il est d'autant plus important que l'Afrique du Sud reprenne sa position de défenseur des victimes africaines de crimes relevant du droit international. Alors reste à savoir si cette annulation signifie que le gouvernement n'a plus l'intention de se retirer de la CPI ou s'il s'agit d'une mesure temporaire prise pour se conformer à la décision de la Cour suprême et épuiser tous les recours au niveau national avant d'officialiser son retrait. Donc là, il y a un petit jeu politique et on va suivre
ce qui va se passer. Parce que ces retraits successifs menaçaient quand même la CPI.
Et oui, hein, puisque d'autres pays s'étaient déjà déclarés en faveur de ce retrait. Hein. Une dernière petite information, Daman Kerami, militant algérien des droits humains, a été libéré le 31 décembre 2016 après avoir passé un an derrière les barreaux. Pour avoir participé en 2014 et 2015 à des mouvements de protestation sociale pacifique à Tamanrasset Rasset dans le sud de l'Algérie. Voilà donc une bonne nouvelle, une libération d'un militant des droits humains.
Très bien. Et une semi-bonne nouvelle, mais quand même, c'est pour le journaliste, on avait beaucoup parlé à Amnesty et soutenu le journaliste Ahmed Abba, qui est un journaliste de RFI, qui a été condamné au Cameroun à la peine de mort, hein, qui a été arrêté en 2015. Bon, qui a été tenu au secret pendant 3 mois, torturé, qui est finalement passé en procès. et dont la sentence a été changée en 10 ans de prison.
C'est alors, pas tout à fait pareil, hein. C'est encore injuste. Mais...
C'est très injuste, ouais. Mais on nous a bon espoir qu'on continue à soutenir ce journaliste, qui est absolument innocent, il puisse finir par être libéré. Voilà, et puis la dernière petite minute culturelle, si en ce moment justement de grandes réflexions, un petit livre de la documentation française qui coûte 10 euros, donc pas trop cher, un petit tour d'horizon des populismes dans le monde et particulièrement en Europe.
Ah oui, et Dieu sait s'il y en a.
Qui s'appelle Populisme et nationalisme dans le monde et qui est très intéressant et qui est aussi un petit décryptage justement des discours et des positions populistes.
Voilà, c'est tout
pour cette fois-ci.
On vous dit au revoir, on vous souhaite une bonne semaine, un bon mois et à bientôt
sur de nouveau les ondes de FM+.
Au revoir.
Au revoir.
Todos os indivíduos privados da sua liberdade devem ser tratados com humanidade e com respeito da dignidade inerente à pessoa humana.
Noska ma prawo do życia, wolności i do pewności swojej osobowości.
Ilo tela lava kundane ya surekshat todum sawante todum jeevikam lava gashamanda nan ende vishwasam.
L'enfant handicapé a le droit de bénéficier de soins spéciaux ainsi que d'une éducation et d'une formation appropriée pour lui permettre de mener une vie pleine et décente dans la dignité.
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
Everyone is equal in the eyes of the law and has the right to equal protection by the law.
Die Familie ist das natürliche Element und das Fundament jeder Gesellschaft und hat das Recht auf Unterstützung vom Staat und von der Gesellschaft.
Rodina je prirodzeným prvkom a fundamentom spoločnosti a má právo na ochranu štátom.
Alle Menschen wurden frei und gleich in Wahrheit und Rechte geboren. Sie sind begiftet mit Verstand und Geweten und behoren sich gegenseitig in den Geist von Bruderschaft zu gedragen.